Europe 1.
Le journal de 6h, Romane Hoquet. Bonjour Romane.
Bonjour à tous. Est-ce que vous en avez profité dernier week-end pour les soldes d'hiver et vous vous en êtes peut-être rendu compte, il n'y a pas foule dans les magasins. Et d'ailleurs, quel magasin ? Liquidation judiciaire pour Camailleux, redressement pour Gosport et Koukaï et maintenant Pimki qui pourrait supprimer 500 emplois. Des marques emblématiques mais une issue logique pour les clientes rencontrées par Margot Faudéré.
En pleine période de solde, Florence, enseignante, ne manque pas de passer dans cette enseigne qu'elle connaît bien. Difficile pour elle de l'imaginer fermée. Koukaï, c'était un peu une histoire de famille.
C'est un petit pincement au cœur. Avec mes filles, on venait régulièrement. Les marques, il faut un peu les soutenir pour qu'elles puissent perdurer et qu'il n'y ait pas une espèce d'uniformisation totale.
Véronique aussi a longtemps été cliente de Koukaï ou Camailleux, mais elle n'est pas très étonnée par leur sort.
Dans les 10 premières années, j'ai fréquenté ces enseignes-là. Et puis, je me suis détournée de ces enseignes-là compte tenu de la dégradation de qualité du textile.
Et les difficultés n'ont cessé de s'accumuler pour ces marques, explique Thomas Graffanino, expert du secteur chez Sia Partners.
Il y a l'impact de la fast fashion avec des collections qui sont beaucoup plus fréquentes dans le temps, comme on voit chez H&M, Zara. Il y a aussi l'essor du e-commerce sur lesquels des marques n'ont pas forcément réussi à bien se positionner. C'est ce côté louper le coche par rapport à leur marché et par rapport aux évolutions de leur marché.
Avec ces différentes procédures de redressement judiciaire, ce sont en tout cas des centaines de boutiques en France qui pourraient baisser le rideau.
Margot Faudéré du service économie d'Europe 1, fin des soldes d'hiver mardi prochain, le 7 février donc.
7 février, tiens, c'est aussi la date de la prochaine mobilisation contre la réforme des retraites, les transports, l'éducation, l'énergie. Les syndicats tiennent bon, et le gouvernement aussi.
Elisabeth Borne, oui, inflexible. Hier soir à la télévision, la première ministre a martelé ses arguments. 45 minutes d'interview pour convaincre d'un départ en retraite à 64 ans. Jacques Serret, la chef du gouvernement, n'a fait aucune concession.
Oui, si Elisabeth Borne reconnaît l'ampleur du mouvement de contestation.
Ça suscite des réactions. Moi, j'entends les réticences, les inquiétudes, les questions.
Hors de question pour elle à ce stade de faire une quelconque concession.
C'est indispensable de mener une réforme pour préserver notre système de retraite par répartition.
Seul un amendement proposé par le parti présidentiel Renaissance semble trouver grâce à ses yeux. Celui-ci propose d'étendre aux entreprises de plus de 50 salariés l'index d'emploi des seniors. Alors que le gouvernement avait prévu de l'imposer aux sociétés de plus de 300 salariés.
Je suis favorable à ce qu'on ait de la transparence sur les pratiques des entreprises à l'égard des seniors.
Elisabeth Borne, inflexible, mais ira-t-elle jusqu'à passer en force à l'Assemblée avec le 49-3 ?
Je n'envisage pas cette hypothèse. Je suis en train de vous dire que je cherche des compromis sur ce texte, comme sur tous ceux que présente mon gouvernement.
Pas de quoi rassurer les opposants à la réforme. Interrogé à l'issue de l'émission, Laurent Berger, le patron de la CFDT, n'y a vu aucune avancée.
Jacques Serret, Elisabeth Borne compte désormais sur le débat parlementaire qui commence lundi à l'Assemblée nationale. Près de 20 000 amendements déposés principalement par les partis de gauche.
Et dans ce travail de persuasion, la Première ministre a été aidée hier par l'un de ses prédécesseurs, Édouard Philippe. Lui aussi à la télévision, le maire du Havre a affirmé son soutien sans ambiguïté au texte de la majorité.
Le gouvernement au front donc sur la réforme des retraites. Emmanuel Macron lui reste à distance, tourné vers l'international. Le président de la République a reçu hier soir le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, reçu à dîner à l'Elysée. Au menu, le nucléaire iranien, le conflit israélo-palestinien et la guerre en Ukraine. D'ailleurs, William Molinier, Paris pousse Israël pour que le pays aide davantage les Ukrainiens.
Oui, depuis un an, Israël freine des cas de fer lorsqu'il s'agit de livrer des armes à Kiev et refuse de choisir son camp. Plusieurs raisons à cela. D'abord, la minorité russe très influente en Israël et les menaces qui pèseraient sur les juifs de Russie en cas d'engagement hostile au Kremlin. Israël ne veut pas non plus se fâcher avec Moscou pour ne pas perdre son accès au ciel syrien. Tel Aviv a pu conduire des opérations militaires aériennes sans que la Russie n'active ses systèmes solaires. Mais cette posture apparente de neutralité est sur le point de basculer en cause l'implication grandissante de l'Iran aux côtés des Russes. La grande puissance chiite offre ses drones kamikazes au Kremlin, des drones qui pourraient demain venir frapper la Terre Sainte, sans compter le programme nucléaire iranien, menace existentielle pour Israël. Le conflit israélo-iranien pourrait donc se jouer par procuration sur le sol ukrainien. Dans la balance diplomatique, Benjamin Netanyahou espère qu'Emmanuel Macron inscrira les gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes ce que le président français est réticent à faire, du moins pour l'instant.
William Molinier, la France et l'Europe qui vont réaffirmer d'ailleurs aujourd'hui leur soutien militaire et financier à l'Ukraine. Un sommet est prévu à Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky souhaite aussi avancer sur l'intégration de son pays à l'Union européenne. 6h05 sur Europe 1, il va finir au fond de l'océan à 5000 mètres de profondeur. Un ancien porte-avions français va être coulé dans l'Atlantique. Le Foch avait été racheté par le Brésil avant de s'apercevoir que la coque de 200 mètres était remplie d'amiante. Les ONG dénoncent un crime environnemental.
Les Français en sont les plus gros consommateurs en Europe. On parle ici de cannabis. D'après l'Observatoire français des drogues, un adulte sur 10 a fumé au moins un joint dans l'année.
Oui, et des consommateurs qui ont plus de risques de développer un cancer du poumon par rapport aux fumeurs de cigarettes. Pour la première fois, une étude française le prouve. Les explications de Yasmine Akatou.
53 ans, c'est l'âge moyen de diagnostic d'un cancer des poumons chez un fumeur de cannabis, contre 65 ans pour les adeptes de la cigarette. Les malades fumaient 3 joints par jour, ce qui représente une consommation moyenne. Alors difficile d'expliquer pourquoi le cannabis provoque un surrisque de développer un cancer précoce, mais des hypothèses sont évoquées par les chercheurs. Didier Debieuvre est coordinateur de l'étude qui a mis en avant les dangers du cannabis.
Le fumeur de tabac fume du tabac avec filtre. Le fumeur de cannabis, lui, son joint, il n'y a pas de filtre. Il inhale donc des quantités probablement plus importantes d'agents carcinogènes, que ce soit du tabac et du cannabis, et qui vont effectivement déclencher la survenue d'un cancer du poumon plus précocement.
En revanche, selon les premiers éléments de l'étude, les fumeurs de cannabis n'ont pas des cancers plus agressifs que les consommateurs de tabac.
Yasmine Akatou, spécialiste santé d'Europe 1.
Et notez qu'à 8h13, François Braun, le ministre de la Santé, sera l'invité de Dimitri Pavlenko sur Europe 1.
Un directeur de prison condamné à 4 ans de prison ferme. Khalid Elkal dirigeait le centre pénitentiaire de Fresnes en région parisienne. L'homme est incarcéré depuis lundi en Haute-Savoie, d'après les informations du journal du dimanche. Une affaire de corruption hallucinante racontée par David Montagnier.
Le principe, une enveloppe de 5000 euros en liquide contre téléphone portable, douche quotidienne, plat de traiteur et même champagne servi en cellule. L'ancien directeur de prison a été condamné pour corruption passive et association de malfaiteurs. Placé en détention provisoire pendant 4 mois, puis libéré avant son procès, il vit cette nouvelle incarcération comme une injustice. Maître Philippe Oyon, son avocat.
Je ne sais pas s'il s'est fait avoir, s'il s'est fait happer, mais en tout cas ça ne peut pas mériter 4 ans de prison, ça ne peut pas mériter la mise en danger d'une personne. Arrivé en prison, il tente de se suicider parce qu'il est au milieu de tout le monde, donc il peut être confronté à des personnes qu'il a lui-même condamnées en discipline en tant que directeur. Il vrille, il est hospitalisé pendant 3 semaines. Pour moi, ce n'est pas un jugement, simple tour d'exécution.
Ses avocats ont déposé une demande de mise en liberté et fait appel de la décision. Selon Europe 1, Khalid Elkal a été admis hier soir dans un hôpital psychiatrique.
David Montagnier, 6h08, les sports sur Europe 1 avec la disparition d'un ancien pilote de Formule 1, Jean-Pierre Jaboul, décédé hier à 80 ans, artisan de la première victoire de l'écurie Renault, c'était en 1979.
Du football, Romain, avec un coup dur pour le PSG qui perd l'une de ses stars.
Oui, Kylian Mbappé, forfait pour 3 semaines à cause d'une blessure à la cuisse. C'était mercredi soir face à Montpellier. Axel May, le crack de Bondy, va donc louper un adversaire de taille, le Bayern Munich, que Paris affronte le 14 février. On parle des 8e de finale de Ligue des Champions. Et le joueur, d'ailleurs, souffre d'une lésion sérieuse, Axel.
Oui, le visage grimaçant de Kylian Mbappé mercredi soir n'était pas du chiquet. Touché dans un choc avec un joueur de Montpellier, Mbappé s'était immédiatement plaint de la jambe gauche. Le communiqué médical du club, publié hier, évoque une lésion musculaire à la cuisse, synonyme de 3 semaines d'indisponibilité. Ce qui veut dire, sauf guérison plus rapide que les prévisions, pas de PSG Bayern le 14 février. Ancien joueur parisien, Jimmy Algerino est l'un des consultants football d'Europe 1.
C'est sûr que c'est une aubaine pour le Bayern et un manque criant pour le Paris Saint-Germain de ne pas avoir Kylian Mbappé sur ce match-là, ouais, c'est sûr. Maintenant, il ne faut pas oublier quand même que le Paris Saint-Germain a un très bel effectif. Il y a des joueurs comme Messi et Neymar qui peuvent faire aussi la différence.
Encore faudrait-il que Neymar soit bel et bien opérationnel pour la réception du Bayern Munich. Blessé à une cheville lors de la Coupe du Monde, le Brésilien a raté le match du PSG à Montpellier, officiellement pour fatigue musculaire. Le club de la capitale va maintenant prier pour que rien n'arrive à son champion du monde argentin, Lionel Messi, d'ici le rendez-vous du 14 février.
Axel May du service des sports d'Europe 1 et puis Kylian Mbappé qui pourrait reprendre le capitanat de l'équipe de France de foot. En tout cas, c'est le candidat naturel, surtout après la retraite annoncée par Raphaël Varane qui était jusque-là le vice-capitaine de l'équipe de France. Le joueur de 29 ans raccroche définitivement son maillot bleu.
C'était le journal des sports avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
C'était le journal de 6h sur Europe 1. Merci Romano.